Nous prenons nos Bibles dans Jean chapitre 14, l'Évangile selon Jean. Merci. Au chapitre 14, le verset 18. Je lis ce qui suit. Vous avez trouvé? On peut lire? Ok. Voilà, Jésus dit ceci: je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Quelle belle parole! Un orphelin, c'est une personne, disons un enfant qui a perdu son père et sa mère, donc qui n'a plus aucun soutien, qui n'a plus de perspective par rapport à son avenir, un enfant qui va vivre sans affection, sans secours dans les moments difficiles, un enfant qui ne saurait plus que faire parce que ses parents ne sont pas là pour le guider. Et souvent, nous pouvons nous sentir aussi comme des orphelins, mais en fait, on n'est pas orphelin parce que Jésus-Christ a dit « Je ne vous laisserai pas orphelin ». Mais quand il est mort à la croix, les disciples ont pensé qu'ils sont devenus orphelins. Ils ont pensé que ce Dieu en qui ils ont mis leur confiance est vraiment mort et ils sont livrés à leurs ennemis. Et c'est pour cela que Jésus-Christ, avant de mourir, a dit, il les a rassurés pour leur dire « Je ne vous laisserai pas orphelins ». Il veut dire par là que vous ne serez jamais seul, mais moi, je viendrai à vous. Donc même si on ne sent pas la présence de Dieu dans nos vies, si on ne le voit pas de nos yeux, il faut se confier en ces paroles qui dit « Je ne vous laisserai pas orphelin, mais je viendrai à vous ». Et tous ceux qui croient en Jésus, ils n'ont jamais été seuls et ils ne seront jamais seuls. Jésus est réellement avec chacun de nous d'une manière individuelle et d'une manière personnelle. Il y a des passages qui prouvent et qui démontrent que le Dieu en qui nous croyons est un Dieu qui veut avoir une relation personnelle avec chacun de nous, avoir une intimité avec chacun de nous, nous montrer que c'est un Dieu qui n'est pas très loin, distant, mais un Dieu qui est tout près de nous. Dans le moment où on n'y pense pas, on ne croit pas du tout, le Seigneur vient à nos côtés et il nous montre le chemin à suivre. Prenons quelques exemples. Depuis l'Ancien Testament, déjà, dans l'Ancien Testament, on voit dans Genèse au chapitre 28, le cas de Jacob. Jacob, en fait, ne connaissait pas Dieu. Ses parents connaissaient Dieu, mais lui ne le connaissait pas. Jacob va quitter ses parents sur conseil de sa mère. Il va arriver dans Genèse 28, verset 10, un endroit, comme il faisait nuit, il va donc se coucher dans un lieu désert, c'est-à-dire que là il n'y a pas de maison, il va donc se coucher en plein air. Et la nuit, Dieu va se révéler à Jacob. C'est pour dire ceci que Dieu n'est pas limité à un lieu. N'importe où on peut se trouver, Dieu y est. Là où on pense que Dieu n'est pas, Dieu se trouve. Il est un Dieu qui est omniprésent, il est partout, il est partout. Mais Jacob pensait que Dieu était limité à un lieu chez ses parents. Mais voilà qu'il fait un songe et il voit Dieu qui se révèle à lui et qui lui parle. Retenons ce que Dieu dit à Jacob au verset 15 de Genèse 28. Il dit, « Voici, je suis avec toi. » Donc Dieu dit, « Je suis avec toi. » Dieu nous rassure qu'il est avec nous. Ce que ne savait pas Jacob. Deuxièmement, il dit ceci, je te garderai partout où tu iras. Donc Dieu est un Dieu qui voyage avec nous, qui se déplace avec nous. Quand nous quittons ce lieu, Dieu ne reste pas dans ce lieu, mais il sort avec nous, il est avec chacun de nous d'une manière individuelle. Il dit encore à Jacob, je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Le Dieu en qui nous croyons n'est pas un Dieu qui abandonne en chemin, mais il va avec nous et il revient aussi avec nous. Il faut que notre foi soit une foi qui croit en ces choses-là, que Dieu est avec nous. Quand on se déplace, il se déplace avec nous. Il nous garde partout où nous allons et il nous ramène dans le lieu où on doit revenir. Deuxièmement, dans Genèse au chapitre 21, il est parlé d'Agar, la servante de Sarah, l'épouse de la femme d'Abraham. Elle a été chassée de chez Abraham. Vous connaissez peut-être l'histoire. Et Abraham va lui donner un peu d'eau pour qu'elle puisse boire en chemin avec son fils. Donc, elle va quitter de chez Abraham avec son fils, Ismaël. Et ils vont aller dans le désert. Et arrivé dans le désert, l'eau n'était pas assez suffisante. L'eau épuisée. Et donc, dans le désert, sans eau, il est impossible qu'on puisse vivre. Alors, que fait Agar? Elle savait qu'ils allaient mourir. Donc, elle a mis son enfant un peu plus loin pour dire qu'elle ne veut pas le voir mourir. Donc, elle attendait la mort. Au moment où elle croyait qu'il n'y avait plus de secours, qu'elle était à l'extrémité, c'est là que Dieu va se révéler à Agar, dans le désert. Vous voyez, là où il n'y a personne, Dieu est là. Là où il n'y a aucun être humain, aucun secours, qu'il n'y a personne vers qui on peut aller, il faut savoir que dans le désert, Jésus se trouve, Dieu se trouve là. Et donc, il va parler à Agar parce qu'il a dit ceci, Dieu dit ceci, j'ai entendu les pleurs de l'enfant. Ce n'est pas seulement la prière que Dieu entend. On peut ne pas crier parce qu'on ne sait pas, bon, on va prier quoi? On ne sait même pas qu'est-ce qu'il faut dire. Mais nos douleurs, les larmes qui coulent de nos yeux, il y a un Dieu qui les voit. Il est dit que Dieu est omniscient, c'est-à-dire Dieu voit tout. Il y a un proverbe arabe qui dit ceci, Dieu voit une fourmi noire dans la nuit noire et sur une pierre noire. Pour dire qu'il n'y a rien qui peut être caché aux yeux de Dieu. Ce que l'homme ne perçoit pas, Dieu perçoit cela. Et Dieu voit les larmes de l'enfant. Et Dieu vient au secours et il ouvre les yeux d'Agar qui voit un puits. Elle a pu puiser l'eau et voici que son fils et elle ont pu vivre parce que Dieu, Jésus a dit ceci, je ne me laisserai pas orphelin. Quand on croit que tout est perdu, on croit que personne ne peut nous secourir, il y a un secours divin qui vient nous sortir de nos détresses. Un autre élément, dans le Nouveau Testament, dans Jean au chapitre 5, à partir du verset 1, Jean au chapitre 5, verset 1, il est parlé d'un homme qui était depuis 38 ans paralysé, non pas 38 jours, non pas 38 mois, mais 38 ans complètement paralysé. Il ne pourrait que se traîner comme un serpent à terre. Ça peut sembler, on peut dire, mais est-ce que ça c'est vrai? Si c'est vrai, nous avons prié pour un frère à l'hôpital dans la semaine. Ça fait 6 mois qu'il est couché à l'hôpital. 6 mois, voyez. Moi-même qui vous parle, avant qu'il ne soit chrétien, j'ai passé 2 ans et demi dans la maladie, ne pouvant plus rien faire du tout. Donc, vous voyez que ce n'est pas des faits qui sont très anciens qu'on ne peut pas croire que ça soit vrai. Aujourd'hui encore, il y a des gens qui peuvent passer des années dans la maladie, dans la souffrance, et il n'y a aucun espoir de guérison. Vous voyez? Et ce monsieur paralysé apprend qu'il y a un lieu où se fait des miracles, une piscine, de l'eau. Quand tu te jettes dans l'eau, le premier, tu es guéri. Alors Jésus vint vers cet homme et lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Il dit, « Mais je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. » Ça veut dire que comme je suis impotent, je ne peux pas marcher, je ne peux que me traîner. Mais les autres qui peut-être ont d'autres maladies, mais ils peuvent marcher, moi je ne peux pas. Et puis il n'y a personne qui peut m'aider. Voici un homme qui est tout seul. Tout seul. Un vrai orphelin. Un orphelin, on peut dire, à 100%. C'est-à-dire, il n'a aucun soutien, pas une aide. Personne ne jette sur lui aucun regard de pitié. Alors cet homme dit, je n'ai personne. Lorsque nous sommes dans la solitude, il y a quelqu'un qui nous tient compagnie. Et c'est Jésus, qui est le père des orphelins, il vient à ses côtés. Il y avait beaucoup de malades, hein, mais c'est vers cet homme qu'il est parti. Pourquoi? C'est lui qui avait plus besoin d'une aide que les autres. C'est-à-dire, lorsque tu es celui qui est le plus souffrant, c'est-à-dire, il y a maladie. Voilà, on peut, nous tous, on a, surtout nous qui sommes un peu d'un certain âge, j'ai 64 ans, quand tu atteins là, cet âge-là, tu commences à avoir des petits bobos. Donc, on est tous malades quelque part, mais il y en a qui ont des maladies vraiment que Dieu ne peut pas passer sans regarder et sans faire quelque chose. 38 ans de maladie par rapport à d'autres, peut-être qui sont malades une semaine, ou bien des maux de tête. Mais Jésus est parti vers cet homme parce qu'il dit, je n'ai personne. Il vit dans la solitude. Il y a un homme ici en Europe qui est mort. Personne, ses voisins, ça, c'est sur le même palier, un appartement sur le même palier, ils n'ont pas su que cet homme est mort. Il est resté, je crois, il est mort. Et c'est après 2 mois qu'on a découvert son corps. C'est pour dire qu'on peut être dans un monde de 7 milliards d'hommes et de femmes comme aujourd'hui, mais pourtant être tout seul, sans personne qui entend nos cris, qui voit nos pleurs, qui connaît nos douleurs, il n'y a personne. Et voici que cet homme, orphelin, on peut le dire, trouve en Jésus un Seigneur aimant, un Seigneur qui vient auprès. Il a bien dit ceci dans Jean 14, 18. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Donc c'est lui qui vient vers la personne qui n'a plus personne. Et donc il s'approche. Dieu s'approche de toi, Dieu vient vers toi, non pas pour te condamner, non pas pour te faire un sermon, mais c'est pour te faire sortir de ta misère et des problèmes qui sont insolus dans ta vie. Il vient vers toi pour te prendre par la main et dit à ce monsieur, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et cet homme est complètement guéri. Ça s'est passé pour moi il y a plus de 45 ans en arrière, deux ans et demi de maladie. Bon, mon père était là, Ma mère, en temps, était décédée pendant que j'étais très malade. Mais mon père était là, mes frères étaient là, mes tantes étaient là. Bon, j'avais tout le monde. Mais seulement, il n'y avait pas de moyen de guérison. Et c'est Christ qui m'a vu dans ma misère, dans mon état de santé lamentable. J'allais vers la mort, une mort certaine, une mort dont je ne pouvais pas échapper du tout sur le plan humain. Au moment où je m'y attendais le moins, c'est là que Christ vient vers moi, à la maison chez moi, au travers d'un frère, pour me dire, va à l'église, on va prier pour toi et tu seras guéri. Et ça a été effectif. En l'an 1963, le Seigneur est intervenu. Donc, ce n'est pas une affaire d'hier. C'est pour dire qu'il y en a qui disent, mais on dit Jésus guéri, mais après, ça revient encore, mais ça fait... ça dure depuis quand même, hein, 45 ans, hein, c'est pas 45 jours. Ça dit une guérison parfaite, totale, après 2 ans et demi de maladie, parce qu'il est le père des orphelins, de ceux qui souffrent, qui n'ont plus d'espoir. Il dit, je viendrai à vous. Donc c'est lui qui vient vers moi, c'est pas moi qui suis parti vers lui, mais c'est lui qui s'est déplacé par au travers d'un de ses disciples pour me dire, viens à l'église. C'est pour ceci que un chrétien ne doit jamais perdre espoir. On peut avoir des moments de découragement, mais non de désespoir. Il faut toujours croire que on a un Père céleste qui pense à nous, qui nous voit et qui intervient au moment où il le faut pour nous faire sortir de notre misère. Un autre exemple encore, dans l'évangile de Marc, au chapitre 6, je vous dis le verset exact, plutôt le passage, Marc 6, verset 47 à 51. Dans ce passage, il est dit ceci, que les apôtres étaient dans une barque et traversaient la mer. Mais le vent était contraire. Souvent dans nos vies, le vent n'est pas dans la bonne direction. C'est-à-dire, le vent est contraire. C'est-à-dire, c'est comme si tout est contre nous. Il n'y a rien qui ne va. On a souvent des journées... Vraiment, on ne comprend pas, tout est difficile. C'est comme la météo la semaine prochaine, mon vieux, il a dit, voilà. Il y a des moments où on n'a plus envie de sortir. On reste dans le lit, on ne veut pas que quelqu'un nous dérange. Parce que, à l'extérieur, il ne fait pas beau. Et ils ont dit aussi qu'il va souffler un vent très fort, ce qui n'est pas fait pour arranger les choses. Il y a des journées comme cela, il y a des nuits comme cela, où rien ne va, où tout est contre nous. Et eux, le vent était contraire. C'est-à-dire, pour que la barque puisse avancer, il faut que ça soit dans la bonne direction. Mais ce n'était pas un bateau à moteur. Il fallait donc plutôt ramer. Et ils font des efforts, mais tous les efforts, ils reviennent encore en arrière. Il y a des gens qui sont comme cela. Tous les efforts qu'ils font sont réduits à néant. Ils font bien d'activité, mais ils ne savent pas comment, mais rien ne marche. À la fin du mois, ils ont un salaire. Le 15 du mois, ils n'ont plus un seul rond en poche. Tout est parti. Ils entreprennent une affaire, ça ne marche pas. Ils vont à la banque, il n'y a plus rien dans leur compte. Ils ne comprennent pas. Ils sortent avec la voiture, ils font un accident. Et il n'y a rien qui va. Ils arrivent à la maison, qu'est-ce qu'il y a à manger? Ah, malheureusement,
J'étais en train de préparer, puis voilà. Ça a cramé. Voilà. Pas de repas pour ce midi. Vous voyez. Ça dit tout est contre. Voilà. Tout est contre. Tout. Ça dit que c'est comme si le ciel te tombe sur la tête à toi seul. Vous voyez. Et en ce moment où les apôtres avaient de la peine à avancer, il y a des gens qui n'avancent plus. Ça dit qu'ils ne font que reculer. Ils n'avancent plus. Les années passent, mais eux, ils sont encore en 1950. Ouais, ça dit qu'ils n'avancent pas, ils n'avancent pas. Mais c'est là encore que Jésus, il a dit ceci, de loin, en tant que Seigneur, il a dit qu'ils avaient, il a vu qu'ils avaient de la peine à ramer. Il a dit, il vient vers eux. Quand rien, quand on n'arrive pas à avancer, Jésus vient pour nous aider à aller de l'avant. Il nous donne il nous propulse pour que nous puissions aller de l'avant. Et il nous propulse de telle manière que nous gagnons des années que nous avons perdues. Nous avons le psaume 90 qui dit que réjouis-nous autant d'années que nous avons vu le malheur. Autant d'années. Et puis il a dit ceci dans Joël chapitre 2. Dieu dit ceci, je remplacerai les années qu'on détruit les sauterelles. Le Dieu est un Dieu qui remplace. Ce qu'on a perdu, lui, il va arranger cela. Et on n'est plus perdant. On gagne. On gagne parce que Dieu est un gagnant et non pas un perdant. Donc, Dieu nous aide à comprendre que on n'est pas des orphelins. Même si on n'a plus de parents terrestres, on a un Père qui est céleste, mais qui est aussi terrestre. Ça veut dire quoi? Ça dit, il ne vit pas dans le ciel seulement, mais il vit sur la terre avec les hommes qui croient en lui et qui se confient en lui. Je conclue par un passage merveilleux qu'il est bon que vous retenez à cœur, et puis par les paroles d'un cantique que nous chantons, mais qui est un cantique merveilleux. D'abord, le passage dit ceci dans Genèse 41, verset 10. Non, pardon, j'ai dit Genèse. Ésaïe. Ésaïe 41, verset 10. Ésaïe 41, verset 10, qui résume toute la pensée que nous avons développée. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Il a dit, ne crains rien. Bon, je lis un peu plus haut, verset 9. Toi que j'ai pris aux extrémités de la terre, verset 9, et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je t'ai choisi et ne te rejette point. Ne crains rien. Ne sois pas dans la crainte, on dit le Seigneur, que ton cœur soit rassuré. Quand je suis avec toi, Dieu est avec nous. Il dit, ne prenez pas de regard inquiet, que l'inquiétude soit bannie de nos cœurs et de nos pensées. Quand je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante, je te soutiens de ma droite triomphante. Maintenant, nous terminons par les paroles du cantique qu'il est bon que vous retenez aussi. Le cantique des chants de victoire, on ne va pas le chanter, mais je vous lis les paroles, qui montre que on n'a pas à craindre, on n'est pas tout seul, mais il y a quelqu'un qui est avec nous. Je ne sais pas si vous avez fait l'expérience. Hein. En Afrique, bon, j'ai 6 enfants, 4 filles et 2 garçons, et puis 7 petits-enfants. Donc, il y a du monde, hein. On peut pas se sentir seul avec toutes ces grandes familles. Surtout les petits-enfants qui demandent « et mon chocolat, et mon jouet, et mon ceci, et mon cela, voyez. » Donc, il y a quoi quand même avoir une journée assez remplie. Mais en Europe, ils ne sont pas là. mais je ne me suis jamais senti seul. Parce que je sens que... Il y en a qui me disent, mais tu ne t'ennuies pas? Je dis, non, je ne m'ennuie pas. On ne peut jamais s'ennuyer avec le Seigneur. Jamais. Il y a des moments où tu sens réellement, je parle, tu sens vraiment physiquement qu'il est là, à tes côtés. C'est merveilleux. On est comblé. Et le chant nous dit, si quelqu'un peut le lire pour nous, le cantique 226. Cantique 226 dans Chant de victoire. Voilà. Il dit, ne crains rien. Dans le voyage terrestre, il dit, ne crains rien, je suis avec toi. Que Dieu vous soutienne à ses paroles et que vous bénisse. J'avais oublié quelque chose dans Luc 16, je le cite de mémoire. Luc 16, à partir du verset 19. Tout ce que j'ai dit, bon, ça dit que, allons dire amen et à la mort, à même quand nous mourrons, n'est pas orphelin. Quand Lazare est mort, c'est ceci que les gens l'ont vu être enterré, mais en fait, sa vraie personne, les anges sont venus le chercher pour le conduire dans le royaume de Dieu. Il a été escorté comme un président, avec des sirènes angéliques. Il est entré dans le ciel avec des cris d'Alléluia, Hosanna, comme ça a été chanté tout à l'heure. Même à notre mort, on n'est pas tout seul. Il y a quelqu'un qui nous suit et qui nous conduit dans son royaume céleste. Que Dieu bénisse et que sa parole en vous demeure. Croyez-le et soyez fortifié par cette parole. Amen. On va prier. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole et ta présence réconfortante à notre côté. Nous te prions que ces paroles deviennent réalité dans la vie des uns et des autres, et que chacun réalise qu'il n'est pas orphelin, qu'il n'est pas orpheline, mais que toi, le Seigneur, tu es là à ses côtés, tu le vois, tu l'entends, et tu marches avec lui. En ton nom, Jésus. Amen.